L'homme qui rit, deuxième partie. Chapitre 1. Lord Cloncharlie. Il y avait dans ces temps-là un vieux souvenir. Ce souvenir était Lord Linnaeus Cloncharlie. Le baron Linnaeus Cloncharlie, contemporain de Cromwell, était un des pairs d'Angleterre, peu nombreux, hâtons-nous de le dire, qui avait accepté la République. Cette acceptation pouvait avoir sa raison d'être et s'explique à la rigueur, puisque la République avait momentanément triomphé. Il était tout simple que Lord Cloncharlie demeura du parti de la République tant que la République avait eu le dessus. Mais, après la clôture de la Révolution et la chute du gouvernement parlementaire, Lord Cloncharlie avait persisté. Il était aisé aux nobles patriciens de rentrer dans la chambre haute reconstituée, les repentirs étant toujours bien reçus des restaurations, et Charles II étant bon prince à ceux qui revenaient à lui. Mais Lord Cloncharlie n'avait pas compris ce qu'on doit aux événements. Pendant que la nation couvrait d'acclamations le roi, reprenant possession de l'Angleterre, pendant que l'unanimité prononçait son verdict, pendant que s'accomplissait la salutation du peuple à la monarchie, pendant que la dynastie se relevait au milieu d'une palinodie glorieuse et triomphale, à l'instant où le passé devenait l'avenir et où l'avenir devenait le passé, ce lord était resté réfractaire. Il avait détourné la tête de toute cette allégresse. Il s'était volontairement exilé. Pouvant être père, il avait mieux aimé être proscrit. Et les années s'étaient écoulées ainsi. Il avait vieilli dans cette fidélité à la République morte. Aussi était-il couvert du ridicule qui s'attache naturellement à cette sorte d'enfantillage. Il s'était retiré en Suisse. Il habitait une espèce de haute masure au bord du lac de Genève. Il s'était choisi cette demeure dans le plus âpre recoin du lac, entre Chillon, où est le cachot de Bonivard, et Veuvois, où est le tombeau de Ludlow. Les Alpes sévères, pleines de crépuscules, de souffles et de nuées, l'enveloppaient. Et il vivait là, perdu dans ces grandes ténèbres qui tombent des montagnes. Il était rare qu'un passant le rencontrât. Cet homme était hors de son pays, presque hors de son siècle. En ce moment, pour ceux qui étaient au courant et qui connaissaient les affaires du temps, aucune résistance aux conjonctures n'était justifiable. L'Angleterre était heureuse. Une restauration était une réconciliation d'époux. Princes et nations ont cessé de faire lit à part. Rien de plus gracieux et de plus riant. La Grande-Bretagne rayonnait. Avoir un roi, c'est beaucoup, mais de plus, on avait un charmant roi. Charles II était aimable, homme de plaisir et de gouvernement, et grand à la suite de Louis XIV. C'était un gentleman et un gentilhomme. Charles II était admiré de ses sujets. Il avait fait la guerre de Hanovre, sachant certainement pourquoi, mais le sachant tout seul. Il avait vendu Dunkerque à la France, opération de haute politique. Les pères démocrates, desquels Chamberlain a dit « La maudite République infecta avec son haleine puante plusieurs de la haute noblesse », avaient eu le bon sens de se rendre à l'évidence, d'être de leur époque et de reprendre leur siège à la noble chambre. Il leur avait suffi pour cela de prêter au roi le serment d'allégeance. Quand on songeait à toutes ces réalités, ce beau règne, à cet excellent roi, à ces augustes princes rendus par la miséricorde divine à l'amour des peuples, quand on se disait que des personnages considérables tels que Monk et plus tard Jeffreys s'étaient ralliés au trône, qu'ils avaient été justement récompensés de leur loyauté et de leur zèle par les plus magnifiques charges et par les fonctions les plus lucratives, que Lord Clancharlie ne pouvait l'ignorer, qu'il n'eût tenu qu'à lui d'être glorieusement assis à côté d'eux dans les honneurs, que l'Angleterre était remontée, grâce à son roi, au sommet de la prospérité, que Londres n'était que fêtes et carrousels, que tout le monde était opulent et enthousiasmé, que la cour était galante, gaie et superbe. Si, par hasard, loin de ces splendeurs, dans on ne sait quel demi-jour lugubre ressemblant à la tombée de la nuit, on apercevait ce vieillard, vêtu des mêmes habits que le peuple, pâle, distrait, courbé, probablement du côté de la tombe, debout au bord du lac, à peine attentif à la tempête et à l'hiver, marchant comme au hasard, l'œil fixe, ses cheveux blancs secoués par le vent de l'ombre, silencieux, solitaire, pensif. Il était difficile de ne pas sourire. Sorte de silhouette d'un fou. En songeant à Lord Clancharlie, à ce qu'il aurait pu être et à ce qu'il était, sourire était de l'indulgence. Quelques-uns riaient trop haut, d'autres s'indignaient. On comprend que les hommes sérieux fussent choqués par une telle insolence d'isolement. Circonstance atténuante, Lord Clancharlie n'avait jamais eu d'esprit. Tout le monde en tombait d'accord. Il est désagréable de voir les gens pratiquer l'obstination. On n'aime pas ces façons de Régulus, et dans l'opinion publique, quelle ironie en résulte. Ces opiniâtretés ressemblent à des reproches, et l'on a raison d'en rire. Et puis, en somme, ces entêtements, ces escarpements, sont-ce des vertus? N'y a-t-il pas dans ces affiches excessives d'abnégation et d'honneur beaucoup d'ostentation? C'est plutôt parade qu'autre chose. Pourquoi ces exagérations de solitude et d'exil? Ne rien outrer est la maxime du sage. Faites de l'opposition, soit, blâmez si vous voulez, mais décemment et tout en criant « Vive le roi !» La vraie vertu, c'est d'être raisonnable. Ce qui tombe a dû tomber. Ce qui réussit a dû réussir. La Providence a ses motifs. Elle couronne qui le mérite. Avez-vous la prétention de vous y connaître mieux qu'elle? Quand les circonstances ont prononcé, quand un régime a remplacé l'autre, quand la défalcation du vrai et du faux s'est faite par le succès, ici la catastrophe, là le triomphe, aucun doute n'est plus possible. L'honnête homme se rallie à ce qui a prévalu. Et quoique cela soit utile à sa fortune et à sa famille, sans se laisser influencer par cette considération, et ne songeant qu'à la chose publique, il prête main forte au vainqueur. Que deviendrait l'État si personne ne consentait à servir? Tout s'arrêterait donc. Garder sa place est un bon citoyen. Sachez sacrifier vos préférences secrètes. Les emplois veulent être tenus. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Être fidèle aux fonctions publiques est une fidélité. La retraite des fonctionnaires serait la paralysie de l'État. Vous vous bannissez, c'est pitoyable. Est-ce un exemple? Quelle vanité! Est-ce un défi? Quelle audace! Quel personnage vous croyez-vous donc? Apprenez que nous vous valons. Nous ne désertons pas, nous. Si nous voulions, nous aussi, nous serions intraitables et indomptables, et nous ferions de pires choses que vous. Eh, nous aimons mieux être des gens intelligents. Parce que je suis Trimalcion, vous ne me croyez pas capable d'être Caton. Allons donc! Jamais situation ne fut plus nette et plus décisive que celle de 1660. Jamais la conduite à tenir n'avait été plus clairement indiquée à un bon esprit. L'Angleterre était hors de Cromwell. sous la République, beaucoup de faits irréguliers s'étaient produits. On avait créé la suprématie britannique. On avait, avec l'aide de la guerre de 30 ans, dominé l'Allemagne. Avec l'aide de la Fronde, abaissé la France. Avec l'aide du duc de Bragance, amoindri l'Espagne. Cromwell avait domestiqué Mazarin. Dans les traités, le protecteur d'Angleterre signait au-dessus du roi de France. On avait mis les Provinces-Unies à l'amende de 8 millions, molesté Alger et Tunis, conquis la Jamaïque, humilié Lisbonne, suscité dans Barcelone la rivalité française et dans Naples Masaniello. On avait amarré le Portugal à l'Angleterre, on avait fait de Gibraltar à Candie un balayage des barbaresques, on avait fondé la domination maritime sous ses deux formes, la victoire et le commerce. Le 10 août 1653, l'homme des 33 batailles gagnées, le vieil amiral qui se qualifiait grand-père des matelots, ce Martin Harpert Strump, qui avait battu la flotte espagnole, avait été détruit par la flotte anglaise. On avait retiré l'Atlantique à la marine espagnole, le Pacifique à la marine hollandaise, la Méditerranée à la marine vénitienne, et, par l'acte de navigation, on avait pris possession du littoral universel. Par l'océan, on tenait le monde. Le pavillon hollandais saluait humblement en mer le pavillon britannique. La France, dans la personne de l'ambassadeur Mancini, faisait des génuflexions à Olivier Cromwell. Ce Cromwell jouait de Calais et de Dunkerque comme de deux volants sur une raquette. On avait fait trembler le continent, dicté la paix, décrété la guerre, mis sur tous les faits le drapeau anglais. Le seul régiment des côtes de fer du protecteur pesait dans la terreur de l'Europe autant qu'une armée. Cromwell disait « Je veux qu'on respecte la République anglaise comme on a respecté la République romaine. » Il n'y avait plus rien de sacré. La parole était libre, la presse était libre. On disait en pleine rue ce qu'on voulait, on imprimait sans contrôle ni censure ce qu'on voulait. L'équilibre des trônes avait été rompu. Tout l'ordre monarchique européen, dont les Stuarts faisaient partie, avait été bouleversé. Enfin, on était sorti de cet odieux régime et l'Angleterre avait son pardon. Charles II, indulgent, avait donné la déclaration de Bréda. Il avait octroyé à l'Angleterre l'oubli de cette époque où le fils d'un brasseur de Huntingdon mettait le pied sur la tête de Louis XIV. L'Angleterre faisait son mea culpa et respirait. L'épanouissement des cœurs, nous venons de le dire, était complet. Les gibets des régicides s'ajoutant à la joie universelle. Une restauration est un sourire, mais un peu de potence ne messied pas et il faut satisfaire la conscience publique. L'esprit d'indiscipline s'était dissipé, la loyauté se reconstituait. Être de bons sujets était désormais l'ambition unique. On était revenu des folies de la politique. On bafouait la Révolution, on raillait la République, et ces temps singuliers où l'on avait toujours de grands mots à la bouche. Droit, liberté, progrès. On riait de ces emphases. Le retour au bon sens était admirable. L'Angleterre avait rêvé. Quel bonheur d'être hors de ces égarements! Y a-t-il rien de plus insensé? Où en serait-on si le premier venu avait des droits? Se figure-t-on tout le monde gouvernant? S'imagine-t-on la cité menée par les citoyens? Les citoyens sont un attelage, et l'attelage n'est pas le cocher. Mettre aux voix, c'est jeter au vent. Voulez-vous faire flotter les États comme les nuées? Le désordre ne construit pas l'ordre. Si le chaos est l'architecte, l'édifice sera Babel. Et puis, quelle tyrannie que cette prétendue liberté! Je veux m'amuser, moi, et non gouverner. Votez m'ennui. Je veux danser. Quelle providence qu'un prince qui se charge de tout! Certes, ce roi est généreux de se donner pour nous cette peine, Et puis, il est élevé là-dedans. Il sait ce que c'est son affaire. La paix, la guerre, la législation, les finances. Est-ce que cela regarde les peuples? Sans doute, il faut que le peuple paie. Sans doute, il faut que le peuple serve. Mais cela doit lui suffire. Une part lui est faite dans la politique. C'est de lui que sortent les deux forces de l'État, l'armée et le budget. Être contribuable et être soldat, est-ce que ce n'est pas assez? Qu'a-t-il besoin d'autre chose? Il est le bras militaire, il est le bras financier. Rôle magnifique! On règne pour lui. Il faut bien qu'il rétribue ce service. Impôts et listes civiles sont des salaires acquittés par les peuples et gagnés par les princes. Le peuple donne son sang et son argent, moyennant quoi on le mène. Vouloir se conduire lui-même, quelle idée bizarre! Un guide lui est nécessaire. Étant ignorant, le peuple est aveugle. Est-ce que l'aveugle n'a pas un chien? Seulement pour le peuple, c'est un lion, le roi, qui consent à être le chien. Que de bonté! Mais pourquoi le peuple est-il ignorant? Parce qu'il faut qu'il le soit. L'ignorance est gardienne de la vertu. Où il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'ambition. L'ignorant est dans une nuit utile qui, supprimant le regard, supprime les convoitises. De là, l'innocence. Qui lit, pense. Qui pense, raisonne. Ne pas raisonner, c'est le devoir. C'est aussi le bonheur. Ces vérités sont incontestables. La société est assise dessus. Ainsi s'étaient rétablies les saines doctrines sociales en Angleterre. Ainsi, la nation s'était réhabilitée. En même temps, on revenait à la belle littérature. On dédaignait Shakespeare et l'on admirait Dryden. Dryden est le plus grand poète de l'Angleterre et du siècle, disait Atterbury, le traducteur d'Achitophel. C'était l'époque où M. Huet, évêque d'Avranches, écrivait à Saumaise, qui avait fait à l'auteur du Paradis perdu, l'honneur de le réfuter et de l'injurier. « Comment pouvez-vous vous occuper de si peu de choses que ce Milton ?» Tout renaissait, tout reprenait sa place. Dryden en haut, Shakespeare en bas, Charles II sur le trône, Cromwell au gibet. L'Angleterre se relevait des hontes et des extravagances du passé. C'est un grand bonheur pour les nations d'être ramenées par la monarchie au bon ordre dans l'État et au bon goût dans les lettres. Que de tels bienfaits puissent être méconnus, cela est difficile à croire. Tourner le dos à Charles II, récompenser par de l'ingratitude la magnanimité qu'il avait eue de remonter sur le trône, n'était-ce pas abominable? Lord Linnaeus Cloncharlie avait fait aux honnêtes gens ce chagrin. Bouder le bonheur de sa patrie, quelle aberration! On sait qu'en 1650, le Parlement avait décrété cette rédaction. « Je promets de demeurer fidèle à la République, sans roi, sans souverain, sans seigneur. » Sous prétexte qu'il avait prêté ce serment monstrueux, Lord Cloncharlie vivait hors du royaume. Et, en présence de la félicité générale, se croyait le droit d'être triste. Il avait la sombre estime de ce qui n'était plus. Attache bizarre à des choses évanouies. L'excuser était impossible. Les plus bienveillants l'abandonnaient. Ses amis lui avaient fait longtemps l'honneur de croire qu'il n'était entré dans les rangs républicains que pour voir de plus près les défauts de la cuirasse de la République et pour la frapper plus sûrement le jour venu au profit de la cause sacrée du roi. Ces attentes de l'heure utile pour tuer l'ennemi par derrière font partie de la loyauté. On avait espéré cela de Lord Cloncharlie, tant on avait de peine à le juger favorablement. Mais, en présence de son étrange persistance républicaine, il avait bien fallu renoncer à cette belle opinion. Évidemment, Lord Cloncharlie était convaincu. c'est-à-dire idiot. L'explication des indulgents flottait entre obstination puérile et opiniâtreté sénile. Les sévères, les justes, allaient plus loin. Ils flétrissaient ce relapse. L'imbécilité a des droits, mais elle a des limites. On peut être une brute, on ne doit pas être un rebelle. Et puis, qu'est-ce après tout que Lord Clancharlie ? Un transfuge. Il avait quitté son camp, l'aristocratie, pour aller au camp opposé, le peuple. Ce fidèle était un traître. Il est vrai qu'il était traître au plus fort et fidèle au plus faible. Il est vrai que le camp répudié par lui était le camp vainqueur et que le camp adopté par lui était le camp vaincu. Il est vrai qu'à cette trahison, il perdait tout, son privilège politique et son foyer domestique, sa pairie et sa patrie. Il ne gagnait que le ridicule. Il n'avait de bénéfice que l'exil. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Qu'il était un niais. Accordé. Traître et dupe en même temps, cela se voit. Qu'on soit niais tant qu'on voudra, à la condition de ne pas donner le mauvais exemple. On ne demande aux niais que d'être honnêtes, moyennant quoi ils peuvent prétendre à être les bases des monarchies. La brièveté d'esprit de ce Clancharlie était inimaginable. Il était resté dans l'éblouissement de la fantasmagorie révolutionnaire. Il s'était laissé mettre dedans par la République et dehors. Il faisait affront à son pays. Pure félonie que son attitude. Être absent, c'est être injurieux. Il semblait se tenir à l'écart du bonheur public comme d'une peste. Dans son bannissement volontaire, il y avait on ne sait quel refuge contre la satisfaction nationale. Il traitait la royauté comme une contagion. Sur la vaste allégresse monarchique, dénoncée par lui comme lazarée, il était le drapeau noir. Quoi ? Au-dessus de l'ordre reconstitué, de la nation relevée, de la religion restaurée, faire cette figure sinistre ? Sur cette sérénité, jeter cette ombre ? Prendre en mauvaise part l'Angleterre contente ? Être le point obscur dans ce grand ciel bleu ? Ressembler à une menace ? Protester contre le vœu de la nation ? Refuser son oui au consentement universel ? Ce serait odieux si ce n'était pas bouffon. Ce Clancharlie ne s'était pas rendu compte qu'on peut s'égarer avec Cromwell, mais qu'il faut revenir avec Monk. Voyez Monk, il commande l'armée de la République. Charles II en exil, instruit de sa probité, lui écrit. Monk, qui concilie la vertu avec les démarches rusées, dissimule d'abord, puis tout à coup, à la tête des troupes, casse le parlement factieux et rétablit le roi. Et Monk est créé duc d'Apemarle. À l'honneur d'avoir sauvé la société, devient très riche, illustre à jamais son époque et est fait chevalier de la jarretière avec la perspective d'un enterrement à Westminster. Telle est la gloire d'un Anglais fidèle. Lord Clancharlie n'avait pu s'élever jusqu'à l'intelligence du devoir ainsi pratiqué. Il avait l'infatuation et l'immobilité de l'exil. Il se satisfaisait avec des phrases creuses. Cet homme était ankylosé par l'orgueil. Les mots conscience, dignité, etc. sont des mots après tout. Il faut voir le fond. Ce fond, Clancharlie ne l'avait pas vu. C'était une conscience myope, voulant, avant de faire une action, la regarder d'assez près pour en sentir l'odeur. De là à des dégoûts absurdes. On n'est pas homme d'État avec ses délicatesses. L'excès de conscience dégénère en infirmité. Le scrupule est manchot devant le sceptre à saisir et eunuque devant la fortune à épouser. Méfiez-vous des scrupules. Il mène loin. la fidélité déraisonnable se descend comme un escalier de cave. Une marche, puis une marche, puis une marche encore, et l'on se retrouve dans le noir. Les habiles remontent, les naïfs restent. Il ne faut pas laisser légèrement sa conscience s'engager dans le farouche. De transition en transition, on arrive aux nuances foncées de la pudeur politique. Alors, on est perdu. C'était l'aventure de Lord Clancharlie. Les principes finissent par être un gouffre. Il se promenait, les mains derrière le dos, le long du lac de Genève. La belle avance! On parlait quelquefois à Londres de cet absent. C'était, devant l'opinion publique, à peu près un accusé. On plaidait le pour et le contre. La cause entendue, le bénéfice de la stupidité, lui était acquis. Beaucoup d'anciens zélés de l'ex-République avaient fait adhésion au Stuart, ce dont on doit les louer. Naturellement, ils le calomniaient un peu. Les entêtés sont importants aux complaisants. Des gens d'esprit, bien vus et bien situés en cour, et ennuyés de son attitude désagréable, disaient volontiers « S'il ne s'est pas rallié, c'est qu'on ne l'a pas payé assez cher, etc. » Il voulait la place de chancelier que le roi a donnée à Lord Hyde, etc. Un de ses anciens amis allait même jusqu'à chuchoter. Il me l'a dit à moi-même. Quelquefois, tout solitaire qu'était Linnaeus Clancharlie, par des proscrits qu'il rencontrait, par de vieux régicides tels que Andrew Broughton, lequel habitait Lausanne, il lui revenait quelque chose de ses propos. Clancharlie se bornait à un imperceptible haussement d'épaule, signe de profond abrutissement. Une fois, il compléta ce haussement d'épaule par ces quelques mots murmurés à demi-voix. « Je plains ceux qui croient cela. » Charles II, bonhomme, le dédaigna. Le bonheur de l'Angleterre sous Charles II était plus que du bonheur, c'était de l'enchantement. Une restauration, c'est un ancien tableau poussé au noir qu'on revernit. Tout le passé reparaît. Les bonnes vieilles mœurs faisaient leur entrée, les jolies femmes régnaient et gouvernaient. Evelyne en a pris note. On lit dans son journal « Luxure, profanation, mépris de Dieu. J'ai vu un dimanche soir le roi avec ses filles de joie. La Portsmouth, la Cleveland, la Mazarin et deux ou trois autres, toutes à peu près nues dans la galerie du jeu. » On sent percer quelque humeur dans cette peinture, mais Evelyne était un puritain grognon, entaché de rêveries républicaines. Il n'appréciait pas le profitable exemple que donnent les rois par ces grandes gaietés babyloniennes, qui, en définitive, alimentent le luxe. Il ne comprenait pas l'utilité des vices. Règle, n'extirpez point les vices si vous voulez avoir des femmes charmantes. Autrement, vous ressembleriez aux imbéciles qui détruisent les chenilles tout en raffolant des papillons. Charles II, nous venons de le dire, s'aperçut à peine qu'il existait un réfractaire appelé Clancharlie. Mais Jacques II fut plus attentif. Charles II gouvernait mollement, c'était sa manière. Disons qu'il n'en gouvernait pas plus mal. Un marin, quelquefois, fait à un cordage destiné à maîtriser le vent, un nœud lâche qu'il laisse serrer par le vent. Telle est la bêtise de l'ouragan et du peuple. Ce nœud large, devenu très vite nœud étroit, ce fut le gouvernement de Charles II. Sous Jacques II, l'étranglement commença. Étranglement nécessaire de ce qui restait de la Révolution. Jacques II eut l'ambition louable d'être un roi efficace. Le règne de Charles II n'était à ses yeux qu'une ébauche de restauration. Jacques II voulut un retour à l'ordre plus complet encore. Il avait, en 1660, déploré qu'on se fût borné à une pendaison de dix régicides. Il fut un plus réel reconstructeur de l'autorité. il donna vigueur aux principes sérieux. Il fit régner cette justice qui est la véritable, qui se met au-dessus des déclamations sentimentales et qui se préoccupe avant tout des intérêts de la société. À ces sévérités protectrices, on reconnaît le père de l'État. Il confia la main de justice à Jeffreys et l'épée à Kirk. Kirk multipliait les exemples. Ce colonel utile fit un jour pendre et dépendre 3 fois de suite le même homme, un républicain, lui demandant à chaque fois « Abjures-tu la République ?» Le scélérat ayant toujours dit non, fut achevé. « Je l'ai pendu 4 fois !» dit Kirk satisfait. Les supplices recommencés sont un grand signe de force dans le pouvoir. Lady Lyle, qui pourtant avait envoyé son fils en guerre contre Monmouth, mais qui avait caché chez elle 2 rebelles, fut mise à mort. Un autre rebelle, ayant eu l'honnêteté de déclarer qu'une femme anabaptiste lui avait donné asile, eut sa grâce, et la femme fut brûlée vive. Kirk, un autre jour, fit comprendre une ville qu'il la savait républicaine en pendant 19 bourgeois. Représailles bien légitimes, certes, quand on songe que sous Cromwell on coupait le nez et les oreilles au sein de pierre dans les églises. Jacques II, qui avait su choisir Jeffreys et Kirk, était un prince imbu de vraie religion. Il se mortifiait par la laideur de ses maîtresses. Il écoutait le père la Colombière, ce prédicateur qui était presque aussi onctueux que le père Cheminet, mais avec plus de feu, et qui eut la gloire d'être dans la première moitié de sa vie le conseiller de Jacques II, et dans la seconde, l'inspirateur de Marie à la coque. C'est grâce à cette forte nourriture religieuse que plus tard, Jacques II put supporter dignement l'exil et donner dans sa retraite de Saint-Germain le spectacle d'un roi supérieur à l'adversité, touchant avec calme les écrouelles et conversant avec des jésuites. On comprend qu'un tel roi dut, dans une certaine mesure, se préoccuper d'un rebelle comme Lord Linnaeus Clancharlie. Les Perry, héréditairement transmissibles, contenant une certaine quantité d'avenir, il était évident que s'il y avait quelques précautions à prendre du côté de ce lord, Jacques II n'hésiterait pas. Livre 2. Lord David Dairymore. Lord Linnaeus Cloncharlie n'avait pas toujours été vieux et proscrit. Il avait eu sa phase de jeunesse et de passion. On sait, par Harrison et Pride, que Cromwell jeune avait aimé les femmes et le plaisir, ce qui, parfois, autre aspect de la question femme, annonce un séditieux. Défiez-vous de la ceinture mal attachée. Male praecinctum juvenem cavete. Lord Cloncharlie avait eu, comme Cromwell, ses incorrections et ses irrégularités. On lui connaissait un enfant naturel, un fils. Ce fils, venu au monde à l'instant où la République finissait, était né en Angleterre pendant que son père partait pour l'exil. C'est pourquoi il n'avait jamais vu ce père qu'il avait. Ce bâtard de Lord Cloncharlie avait grandi page à la cour de Charles II. On l'appelait Lord David Dairymore. Il était Lord de courtoisie, sa mère étant femme de qualité. cette mère, pendant que Lord Clancharlie devenait hibou en Suisse, prit le parti, étant belle, de bouder moins et se fit pardonner ce premier amant sauvage par un deuxième, celui-là incontestablement apprivoisé, et même royaliste, car c'était le roi. Elle fut un peu la maîtresse de Charles II, assez pour que Sa Majesté, charmée d'avoir repris cette jolie femme à la République, donna au petit lord David, fils de sa conquête, une commission de garde de la branche. Ce qui fit ce bâtard officier, avec bouche en cour, et par contre-coup, stuartiste ardent. Lord David fut quelque temps, comme garde de la branche, un des 70 portant la grosse épée. Puis il entra dans la bande des pensionnaires et fut un des 40 qui porte la pertuisane dorée. Il eut en outre, étant de cette troupe noble instituée par Henri VIII pour garder son corps, le privilège de poser les plats sur la table du roi. Ce fut ainsi que, tandis que son père blanchissait en exil, Lord David prospéra sous Charles II. Après quoi, il prospéra sous Jacques II. Le roi est mort, vive le roi! C'est le nom d'Efficit alter aureus. Ce fut à cet avènement du duc d'York qu'il obtint la permission de s'appeler Lord David d'Airymore, d'une seigneurie que sa mère, qui venait de mourir, lui avait léguée dans cette grande forêt d'Écosse où l'on trouve l'oiseau Crag, lequel creuse son nid avec son bec dans le tronc des chênes. Jacques II était un roi et avait la prétention d'être un général. Il aimait à s'entourer de jeunes officiers. Il se montrait volontiers en public à cheval avec un casque et une cuirasse et une vaste perruque débordante sortant de dessous le casque, par-dessus la cuirasse. Espèce de statue équestre de la guerre imbécile. Il prit en amitié la bonne grâce du jeune Lord David. Il sugrait à ce royaliste d'être fils d'un républicain. Un père renié ne nuit point à une fortune de cour qui commence. Le roi fit Lord David gentilhomme de la chambre du lit, à 1000 livres de gage. C'était un bel avancement. Un gentilhomme du lit couche toutes les nuits près du roi sur un lit qu'on dresse. On est 12 gentilshommes et l'on se relève. Lord David, dans ce poste, fut le chef de l'avenir du roi, celui qui donne l'avoine aux chevaux et qui a 260 livres de gage. Il eut sous lui les 5 cochers du roi, les 5 postillons du roi, les 5 palefreniers du roi, les 12 valets de pied du roi et les 4 porteurs de chaises du roi. Il eut le gouvernement des 6 chevaux de course que le roi entretient, Haymarket, et qui coûtent 600 livres par an à Sa Majesté. Il fit la pluie et le beau temps dans la garde-robe du roi, laquelle fournit les habits de cérémonie aux chevaliers de la jarretière. Il fut salué jusqu'à terre par l'huissier de la Verge Noire, qui est au roi. Cet huissier, sous Jacques II, était le chevalier du Pas. Lord David eut les respects de M. Baker, qui était clerc de la couronne, et de M. Brown, qui était clerc du Parlement. La cour d'Angleterre, magnifique, est un patron d'hospitalité. Lord David présida, comme l'un des 12, aux tables et réceptions. Il eut la gloire d'être debout derrière le roi les jours d'offrande, quand le roi donne l'église le besant d'or. Byzantium, les jours de collier, quand le roi porte le collier de son ordre, et les jours de communion, quand personne ne communie, hors le roi et les princes. Ce fut lui qui, le jeudi saint, introduisit près de Sa Majesté les 12 pauvres auxquels le roi donne autant de sous d'argent qu'il a d'années de vie, et autant de shillings qu'il a d'années de règne. Il eut la fonction, quand le roi était malade, d'appeler, pour assister Sa Majesté, les 2 grooms de l'aumônerie qui sont prêtres, et d'empêcher les médecins d'approcher sans permission du Conseil d'État. De plus, il fut lieutenant-colonel du régiment écossais de la garde royale, lequel bat la marche d'Écosse. En cette qualité, il fit plusieurs campagnes, et très glorieusement, car il était vaillant homme de guerre. C'était un seigneur brave, bien fait, beau, généreux, fort grand de mine et de manière. Sa personne ressemblait à sa qualité. Il était de haute taille comme de haute naissance. Il fut presque un moment en passe d'être nommé « Groom of the Stole », ce qui lui eut donné le privilège de passer la chemise au roi. Mais il faut pour cela être prince ou père. Créer un père, c'est beaucoup. C'est créer une pairie, cela fait des jaloux. C'est une faveur. Une faveur fait au roi un ami et 100 ennemis, sans compter que l'ami devient ingrat. Jacques II, par politique, créait difficilement des pairies, mais les transférait volontiers. Une pairie transférée ne produit pas des mois. C'est simplement un nom qui continue. La lordship en est peu troublée. La bonne volonté royale ne répugnait point à introduire Lord David de Wymore dans la chambre haute, pourvu que ce fût par la porte d'une pairie substituée. Sa Majesté ne demandait pas mieux que d'avoir une occasion de faire David de Wymore de l'ordre de courtoisie, l'ordre de droit. Cette occasion se présenta. Un jour, on apprit qu'il était arrivé au vieil absent, Lord Linnaeus Clancharlie, diverses choses dont la principale était qu'il était trépassé. La mort a cela de bon pour les gens qu'elle fait un peu parler d'eux. On raconta ce qu'on savait ou ce qu'on croyait savoir des dernières années de Lord Linnaeus, conjectures et légendes probablement. À en croire ses récits, sans doute très hasardés, vers la fin de sa vie, Lord Clancharlie aurait eu une recrudescence républicaine, telle qu'il en était venu, affirmait-on, jusqu'à épouser, étrange entêtement de l'exil, la fille d'un régicide, Anne Boitshaw, on précisait le nom, laquelle était morte aussi. Mais, disait-on, en mettant au monde un enfant, un garçon, qui, si tous ces détails étaient exacts, se trouverait être le fils légitime et l'héritier légal de Lord Clancharlie. Ces dires, fort vagues, ressemblaient plutôt à des bruits qu'à des faits. Ce qui se passait en Suisse était pour l'Angleterre d'alors aussi lointain que ce qui se passe en Chine pour l'Angleterre d'aujourd'hui. Lord Clancharlie aurait eu 59 ans au moment de son mariage et 60 à la naissance de son fils, et serait mort fort peu de temps après, laissant derrière lui 7 enfants, orphelins de père et de mère. Possibilité, sans doute, mais invraisemblance. On ajoutait que cet enfant était beau comme le jour, ce qui se lit dans tous les contes de fées. Le roi Jacques mit fin à ces rumeurs, évidemment sans fondement aucun, en déclarant un beau matin Lord David de Wymore unique et définitif héritier, défaut d'enfant légitime, et par le bon plaisir royal de Lord Linnaeus Clancharlie, son père naturel, l'absence de toute autre filiation et descendance étant constatée. De quoi les patentes furent enregistrées en chambre des lords. Par ces patentes, le roi substituait Lord David de Wymore au titre, droits et prérogatives du dit défunt Lord Linnaeus Clancharlie, à la seule condition que Lord David épouserait, quand elle serait nubile, une fille, en ce moment-là tout enfant et âgée de quelques mois seulement, que le roi avait au berceau faite duchesse, on ne savait trop pourquoi. Lisez, si vous voulez, on savait trop pourquoi. On appelait cette petite la duchesse Josiane. La mode anglaise était alors aux noms espagnols. Un des bâtards de Charles II s'appelait Carlos, comte de Plymouth. Il est probable que Josiane était la contraction de Josefa Jana. Cependant, peut-être y avait-il Josiane comme il y avait Josias. Un des gentilshommes de Henri III se nommait Josias du Passage. C'est à cette petite duchesse que le roi donnait la pairie de Clancharlie. Elle était pairesse en attendant qu'il y eût un père. Le père serait son mari. Cette pairie reposait sur une double châtellerie, la baronnie de Clancharlie et la baronnie de Hunkerville. En outre, les lords de Clancharlie étaient, en récompense d'un ancien fait d'armes et par permission royale, marquis de Corleone en Sicile. Les pairs d'Angleterre ne peuvent porter de titres étrangers. Il y a pourtant des exceptions. Ainsi, Henri Arundel, baron Arundel de Wardour, était, ainsi que Lord Clifford, comte du Saint-Empire, dont Lord Cowper est prince. Le duc de Hamilton est en France duc de Châtellerault, Basil Fielding comte de Denbigh est en Allemagne comte de Habsbourg, de Laufenburg et de Reffelden. Le duc de Marlborough était prince de Middelheim en Souabe, de même que le duc de Wellington était prince de Waterloo en Belgique. Le même Lord Wellington était duc espagnol de Ciudad Rodrigo et comte portugais de Vimera. Il y avait en Angleterre, et il y a encore, des terres nobles et des terres roturières. Les terres des lords Clancharlie étaient toutes nobles. Ces terres, châteaux, bourgs, bailliages, fiefs, rentes, alleuses et domaines adhérents à la pairie Clancharlie-Hunkerville, appartenaient provisoirement à Lady Josiane. Et le roi déclarait qu'une fois Josiane épousée, Lord David Dirry-Moore serait baron Clancharlie. Outre l'héritage Clancharlie, Lady Josiane avait sa fortune personnelle. Elle possédait de grands biens, dont plusieurs venaient des dons de Madame Sans-Queue au duc d'York. Madame Sans-Queue, cela veut dire Madame tout court. On appelait ainsi Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans, la première femme de France après la reine. Après avoir prospéré sous Charles et Jacques, Lord David prospéra sous Guillaume. Son jacobisme n'alla point jusqu'à suivre Jacques II en exil. Tout en continuant d'aimer son roi légitime, il eut le bon sens de servir l'usurpateur. Il était du reste, quoiqu'avec quelque indiscipline, excellent officier. Il passa de l'armée de terre dans l'armée de mer et se distingua dans l'escadre blanche. Il y devint ce qu'on appelait alors capitaine de frégate légère. Cela finit par faire un très galant homme, poussant fort loin l'élégance des vices, un peu poète comme tout le monde, bon serviteur de l'État, bon domestique du prince, assidu aux fêtes, aux galas, aux petits levers, aux cérémonies, aux batailles, servile comme il faut, très hautain, ayant la vue basse ou perçante selon l'objet regardé, probe volontiers, obséquieuse et arrogant à propos, d'un premier mouvement franc et sincère, quitte à se remasquer ensuite, très observateur de la bonne et mauvaise humeur royale, insouciant devant une pointe d'épée, toujours prêt à risquer sa vie sur un signe de sa majesté avec héroïsme et platitude, capable de toutes les incartades et d'aucune impolitesse, homme de courtoisie et d'étiquette, fier d'être à genoux dans les grandes occasions monarchiques, d'une vaillance gaie, courtisan en dessus, paladin en dessous, tout jeune à 45 ans. Lord David chantait des chansons françaises, gaieté élégante qui avait plu à Charles II. Il aimait l'éloquence et le beau langage. Il admirait fort ces boniments célèbres qu'on appelle les oraisons funèbres de Bossuet. Du côté de sa mère, il avait à peu près de quoi vivre. Environ 10 000 livres sterling de revenus, c'est-à-dire 250 000 francs de rente. il s'en tirait en faisant des dettes. En magnificence, extravagance et nouveauté, il était incomparable. Dès qu'on le copiait, il changeait de mode. À cheval, il portait des bottes aisées de vaches retournées avec éperons. Il avait des chapeaux que personne n'avait, des dentelles inouïes et des rabats à lui tout seul.